Cette radio fait partie du réseau Radio Campus France. Retrouvez toutes les informations sur le www.radiocampus.fr.
Radio Campus France, le réseau des Radio Campus, impulse des démarches de production collective entre les Radio Campus. Cela se traduit par des émissions collectives multidiffusées comme Univox, Starting Block, Multicampus ou Indire Radio Muse, des plateaux communs en direct de festivals, des partenariats musicaux et des actions d'éducation aux médias. Radio Campus France, c'est 28 radios dans les grandes villes universitaires en France.
This is a journey into sound.
Radiotopia.
La radio, tu poses ton micro.
Quelques jours avant le second confinement, nous nous sommes retrouvés à plein d'inconnus pour un projet ambitieux, la réalisation d'une série documentaire. Le cadre était celui-là.
Chaque semaine, il y aura une réunion, une conférence de rédaction. Ce qu'on appelle une conférence de rédaction, c'est vraiment, on discute de l'épisode, on écrit sur l'épisode, on voit ce qu'on peut faire, avec quels invités, avec quel son, avec quel habillage, qu'est-ce qu'on raconte, pour quel public, parce que c'est ça aussi de créer de la radio. C'est, on ne fait pas de la radio pour nous, même si on le fait aussi un peu pour nous, mais on le fait pour un public, donc à qui est-ce qu'on s'adresse? Ça, c'est des choses qu'on va définir ensemble.
Nous venons d'endroits différents, géographiquement, mais aussi dans nos pratiques de la radio. Notre démarche est collective, confinée, expérimentale et indépendante.
Radiotopia, c'est une expérience inédite de production collaborative. Il et elle sont à peu près 20 personnes à produire cette série qui comptera plusieurs épisodes. Émile Palmentier est coordinateur éditorial de Radio Campus France. Il est là avec nous pour en parler. Bonjour Émile.
Bonjour Viviane, merci de m'accueillir.
Alors peux-tu nous parler un petit peu de Radiotopia? Quelle est la genèse de ce projet? Qu'est-ce qui a impulsé cette démarche de production collective et cette envie de travailler collectivement?
Il y avait à la base, je pense, une très forte envie de la part de l'association Radio Campus France d'avoir une affirmation très claire en matière d'éducation aux médias. Le projet est né d'abord de la naissance d'une mission clairement élaborée autour de l'éducation aux médias et que faire en tant que réseau dans le champ de l'éducation aux médias et plus large de l'éducation populaire avec les radios. Pour ça, on a créé différentes activités et missions dont plusieurs personnes avaient la charge. Et parmi celles-ci, il y a eu effectivement l'idée de réaliser un programme documentaire.
Alors, comment s'est déroulée la production des premiers épisodes? Comment vous êtes vous mis d'accord sur le choix des sujets, du sujet hein, qui est la radio et l'angle? Comment vous êtes mis d'accord sur les aspects esthétiques aussi et de création sonore? Comment tout ça a été défini? Comment les rôles, la transmission s'est opérée?
On fait le constat, nous, au sein du réseau et dans les radios, d'une vivacité inédite, hein, je pense, sur les ondes et à l'intérieur des communautés de radio et dans les radios associatives, également sur le web avec l'univers du podcast. Donc, il y avait vraiment l'idée de, on souhaitait vraiment partir, voilà, à la rencontre de ces acteurs, en fait, qui font la radio d'aujourd'hui, de demain, et aussi un peu celle d'hier d'ailleurs, et à réfléchir ensemble, tout simplement, à nos propres pratiques. C'était en fait une occasion de réfléchir à nos pratiques radiophoniques dans une logique, dans la réflexion d'éducation populaire et d'éducation aux médias. Et finalement, c'est là qu'est née vraiment l'idée de travailler, c'est quoi la radio, quoi.
Et sur le processus, comment vous avez justement choisi les rôles de chacun et comment ça s'est passé?
On a essayé de faire une petite équipe, je dirais, de coordination d'abord. En fait, on s'appuie un peu sur la structuration qu'il peut y avoir aussi en radio associative, où il y a souvent quand même des personnes qui sont en charge de la coordination de certaines actions, souvent salariées, mais pas toujours. Donc on a d'abord essayé de faire un noyau dur comme ça de coordinateurs, en essayant de créer en fait un cadre un cadre éditorial et un cadre organisationnel. Et bon, on savait qu'on voulait faire un documentaire sur la radio, on savait qu'on voulait parler d'éducation aux médias, mais on savait pas très très bien comment on allait pouvoir être, comment ça allait être le reflet finalement de nos pratiques dans la radio associative. Et c'est là en fait qu'est née un petit peu cette logique de collaboration. Hein. L'idée, c'était vraiment de former une équipe la plus large possible, la plus nombreuse possible, et de collaborer ensemble à la réalisation documentaire. Donc tout ça qu'on a un peu appelé, dans nos premiers appels, on a nommé le projet vraiment un projet, un appel à participation sur la base d'un projet documentaire collaboratif. Radiotopia, c'est une équipe, je dirais, de presque 20 personnes, au final, peut-être même 25 personnes, je n'ai pas fait le décompte exact, mais vraiment, voilà, sur une logique de production, c'est un documentaire sur une logique de production collaborative, où en fait, chacun amène une pierre dans cet édifice assez grand qu'est le documentaire radio. Et je citais tout à l'heure, voilà, une équipe de coordination composée de 4 personnes. Je représente évidemment cette équipe de coordination, mais je voudrais quand même citer Émilie Vadel, qui est membre du bureau associatif de Radio Campus France, qui a donné du temps bénévole pour la production de ce documentaire. Et puis, bien sûr, Claire Legac, qui a été aussi missionnée dans le champ de l'éducation aux médias et qui a contribué énormément à la production et la coordination de ce projet documentaire.
Et donc, ça s'est fait malheureusement en période Covid. Est-ce que ce travail collaboratif, il aurait eu le même impact, à ton avis, sans le Covid ?
Bah, en un sens, le projet était très adapté à la période Covid parce que comme c'était un travail, un projet collaboratif à 20 personnes, dans le réseau campus, les collaborateurs étaient vraiment distants géographiquement les unes des autres. Donc, on a fait régulièrement des réunions en visio, des séances d'écoute aussi à distance, toute une série aussi de micro-formations. On a demandé à des amis ou à des partenaires professionnels dans la radio de sensibiliser aussi l'équipe au montage son, à la création radio, à la conduite d'une interview, etc. Voilà, pour donner un peu les clés à certaines personnes qui simplement étaient demandeuses aussi d'apprendre des choses par le biais de la production documentaire. Et donc oui, c'était vraiment très à distance. Alors, pour répondre un peu plus en profondeur à ta question, simplement, il était prévu qu'on puisse travailler à distance, mais il est toujours prévu qu'on puisse avoir des rendez-vous physiques pour se retrouver. Il faut créer de la convivialité. Et malheureusement, dans ce projet-là, à cause de la situation sanitaire, on n'a pas pu créer ces temps d'échange en physique plus conviviaux. Et j'espère qu'on pourra remédier à ça pour les prochains épisodes.
Et donc, ces différentes personnes se sont réunies à peu près toutes les semaines pour élaborer un plan de travail et puis des pôles de création. Des pôles différents, en fait. Voilà, à la fois pour la rédaction, pour la réalisation vraiment globale de l'émission, pour la création sonore, le montage.
L'écriture aussi, la production documentaire et la radio en général, quand on pénètre un peu plus à l'intérieur du monde de la radio, on se rend compte qu'on utilise beaucoup son papier, son crayon, ou sinon son ordinateur et son carnet de notes. Et donc, il y avait un travail d'écriture aussi approfondi, réaliser des problématiques. On a fait des réunions tous ensemble, et puis après, effectivement, on faisait des réunions entre pôles, on appelait pôle de création sonore. Donc c'était plutôt le pôle qui avait à charge de créer des habillages sonores, des environnements, des décors sonores, et bien sûr aussi des jingles pour ce documentaire là ou ce podcast. On avait donc le pôle écriture que j'ai abordé la question, et puis le pôle interview, donc vraiment pour essayer de coécrire ensemble un questionnaire. C'est pas évident d'avoir à faire imaginer une interview qui soit où les questions sont un peu le fruit de l'imagination d'une équipe plurielle. Donc voilà, le pôle s'est efforcé ensemble de produire ces questionnaires, et puis après se sont répartis les rôles pour aller à la rencontre tout simplement des interviewés qu'ils souhaitaient rencontrer et poser évidemment leurs questions.
Alors ça questionne quand même la notion d'auteur. Qui finalement est l'auteur de ce documentaire, si l'écriture est collective, si comment justement les égos arrivent à se taire ou à justement s'exprimer.
C'est très très intéressant justement, parce que je pense que c'est vraiment le cœur du projet du documentaire collaboratif appelé Radiotopia. C'est qu'effectivement il y a une certaine, c'est un peu dans l'air du temps, la notion d'auteur dans la radio, notamment plutôt dans le monde du podcast, où une personne ou plusieurs personnes incarnent son propre podcast. Je trouve ça effectivement très bien, mais on avait un peu envie justement de faire le grand écart en disant, tiens, voilà, est-ce que finalement on peut pas désincarner, mais disons rendre plus collectif ce travail. On sait, nous qui travaillons dans la radio, que c'est toujours un ouvrage collectif, la radio. Il y a toujours derrière des intelligences et des compétences et des complémentarités en matière de montage audio, en matière de technique de son, en matière de création de jingle et d'environnement sonore. Enfin voilà, c'est beaucoup de petites mains finalement, le monde de la radio et le monde du documentaire. Et on avait à cœur de montrer ça ou de révéler ça, si je puis dire.
Alors le nom Radiotopia, il pourrait faire croire que la radio, elle est morte. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui, alors qu'on fête les 40 ans des radios libres?
Oui, alors bon, c'est un brin provocateur, Radiotopia. D'ailleurs, rien te cacher, et puis tu le sais, Viviane, toi aussi, tu as été un peu à l'initiative, tu as rattrapé aussi un peu l'équipe de coordination. Et Radiotopia, provocatif au sens où non, la radio, elle n'est pas morte, bien au contraire, non, elle est même souvent en renaissance ou en mutation. Et donc, il y avait cette idée aussi d'alerter, je crois, un peu les jeunes auditeurs à la radio. Aujourd'hui, on parle beaucoup de podcasts, on parle un petit peu moins de radio, en tout cas, je pense, dans la bouche de jeunes auditeurs. Donc voilà, on partait un petit peu de cette idée-là. Après, ce que moi j'en pense sincèrement sur est-ce que la radio est morte ou doit-on faire une autopsie de la radio telle qu'elle était hier et telle qu'elle sera demain? Moi, je pense que voilà, c'est simplement une continuité, un fil et effectivement un processus, des méthodes de fabrication qui sont sans cesse en mutation. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on manipule le son. On n'a jamais autant manipulé le son qu'aujourd'hui. Donc non, on n'est pas vraiment. La radio n'est pas morte.
J'ai assisté à des émissions directes et en fait, pour moi, j'ai pris une grosse claque, quoi.
Pour moi, la radio, ça sert à mettre des mots sur le silence.
Je suis jamais rentrée dans un studio, par exemple.
J'aime bien tomber sur des sujets improbables.
Le track, je me rappellerai du track, la voix qui est un peu chevrotante.
Je suis passée à vraiment considérer la radio comme un de mes profs, en fait.
Ce qui est génial avec la radio, c'est ce que ça apprend, c'est qu'on apprend tout le temps.
La radio, on commence par l'écouter avant de comprendre ce qu'il y a derrière.
Mon rapport à la radio en tant qu'auditeur, il est musical, puisqu'en fait, je suis tombé dans le chaudron du rap et du hip-hop dans les années 90. En fait, sur une radio associative qu'il y avait dans la ville où j'ai grandi, à Bourges, il y avait une émission de rap animée par deux frangins. Les gars avaient un petit peu de moyens, ils avaient du matériel, des platines, ils avaient du réseau, donc ils arrivaient à faire venir des artistes qui commençaient à être un peu connus. Et du coup, ça, c'était... J'ai assisté à des émissions en direct, et en fait, pour moi, j'ai pris une grosse claque, quoi. C'était juste un truc de ouf. T'es fan de rap. C'était vraiment le premier rapport. En grandissant, quand j'étais étudiant à Orléans, il y avait Radio Campus sur le campus de l'université. Un journaliste à Radio Campus à Orléans qui a pas manqué de nous faire venir avec des copains et des copines à l'antenne. Et puis comme ça s'est bien passé, en fait, on a gardé le micro, comme on dit, et en fait, on est devenu un petit peu chroniqueur en pointillé comme ça d'une émission qu'il y avait quotidienne sur Radio Campus Orléans. Donc là, c'était plus musical, c'était un truc un peu plus de l'information, on va dire. En fait, quand je me revois aller à cette émission, on était un peu des chiens fous, quoi. Enfin, on était étudiants, c'était pendant des blocages, donc on allait là-dedans. Je pense que dans notre tête, on pensait qu'il y avait toute l'agglomération d'Orléans qui nous écoutait, alors qu'en réalité, je pense que c'était un petit peu en deçà de ce qu'on imaginait.
On parle, il y a des gens qui nous écoutent, pas beaucoup, mais il y a des gens qui nous écoutent quand même. Les premières minutes, ouais, ça fait peur. Et puis après, dès que le truc était lancé, ben, ça se passait très bien. On a beaucoup rigolé et tout. Donc, on se détend. Et puis, la sensation, surtout à la fin de l'émission. Et ouais, j'ai pris 2-3 jours pour m'en remettre. Quoi, de vraiment, j'étais encore en train de planer 2-3 jours après parce que, waouh, c'était une sensation énorme. C'était une excellente expérience. Et à chaque fois... quand je suis à l'antenne, il y a toujours ce petit track au début, et puis après, ça part tout seul, quoi. C'est du plaisir, c'est que du plaisir. Et quand on parle de quelque chose qu'on aime ou quelque chose qui nous importe, on est beaucoup plus porté finalement par ça. Donc l'attitude, la voix, va montrer, essayer tout au moins de montrer cette passion. Alors qu'est-ce qu'on apprend ? La radio est interactive. C'est du spectacle vivant, très clairement. On est sans filet. C'est comme du théâtre en quelque sorte. On se trompe au théâtre, ça va se voir, ça va s'entendre. Et bon, la radio, ça se voit pas, ça va s'entendre. Tout peut arriver. Faut prendre les choses comme elles viennent. Surtout ne pas paniquer parce que ça s'entend à la radio. Ce que j'ai appris le plus des émissions qu'on a fait, on peut pas se cacher. Étant quelqu'un d'introverti, on a plus tendance à vouloir se cacher, se dire « je ne suis pas là, je n'existe pas, oubliez-moi ». À la radio, on ne peut pas, on n'a pas le droit, on ne peut pas se cacher, parce qu'il y a un micro, il y a des gens qui écoutent, et tu ne peux pas dire « non, je n'ai pas parlé, parce que si pendant une demi-heure, il n'y a rien, les gens ils vont dire « c'est nul ». Donc voilà, il faut parler, donc... Ouais, c'est vraiment ce truc-là, c'est vraiment sortir de sa coquille un peu, et puis il faut aller vers les gens. Finalement, c'est un média qui va vers les gens. Le fait que c'est interactif, le fait que il faut que la personne de l'autre côté du poste aussi, on puisse le capter, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui peut lui donner une piste de réflexion. Et ça, c'est ça que j'aime le plus, c'est du partage, c'est... À la radio, on transmet notre passion de faire de la radio. Que pour les auditeurs, il faut qu'ils comprennent, c'est que l'animateur n'est pas tout seul. L'animateur, il y a toute une équipe autour de lui. Et que chaque maillon de cette chaîne est ultra importante. Il y a une équipe écriture, il y a une équipe de montage, il y a une équipe d'animation, il y a une personne derrière la console. Voilà. Et même à la base, on pourrait dire que la radio n'existerait pas s'il n'y a pas d'auditeur. Tous forment une équipe, c'est un travail d'équipe, c'est un résultat d'équipe. Ouais, je pense que c'est ça. Pour moi, la définition même de la radio, c'est une équipe avec les auditeurs.
Alors, en quoi la radio, c'est un moyen d'éducation ? Tu le disais, hein, Radiotopia, c'est un projet avant tout d'éducation populaire, de transmission. Pourquoi tout ce qu'on fait dans nos radios semble avoir une dimension éducative ?
Ça, c'était vraiment la grande problématique pour nous, et je pense qu'on a beaucoup appris au travers du projet Radiotopia, enfin on apprend beaucoup au travers du projet Radiotopia qui n'est pas encore terminé. On sait que les radios associatives fonctionnent sur une base, on va dire, communautaire. D'ailleurs, en Angleterre, on les appelle community radio. Alors, par contre, radio communautaire en français, c'est un petit peu péjoratif, mais disons que voilà, il y a une communauté de gens qui travaillent et qui œuvrent autour d'un projet média. Et souvent lorsque dans les radios associatives, et peut-être plus particulièrement encore dans les radios campus, il y a vraiment cette idée de sensibiliser les jeunes gens, de préférence des étudiants, en tout cas des jeunes adultes, à la pratique radiophonique et à l'expression citoyenne. Donc il y a une volonté non pas d'éduquer les gens qui viennent pratiquer la radio chez nous, mais d'être sensibilisés en fait au fonctionnement d'un média en expérimentant l'usage du média et de l'outil médiatique en lui-même.
Alors, dans le premier épisode, on entend beaucoup d'animateurs qui transmettent leur passion. Et à chaque fois, il y a une dimension didactique, transmettre la radio pour comprendre la radio. Alors, la radio, est-ce que c'est un média qui est réservé à ceux qui savent et quelle place l'auditeur, justement, trouve-t-il là-dedans?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas vraiment si je dois répondre oui ou non, si c'est un média pour ceux qui savent. En tout cas, nous, on s'efforce de donner l'envie aux gens de s'approprier l'outil médiatique. Le principe, il est celui-ci, c'est vous voyez, entendez des choses, des contenus proposés par des médias. Que diriez-vous d'essayer de vous l'approprier, de le faire par vous-même? Alors évidemment, ça crée parfois un peu des imprécisions, des maladresses, mais aussi beaucoup de spontanéité, et qui est parfois assez intéressante. Et donc, il y a vraiment une sensibilité qui est particulière, je pense, à la pratique d'un média associatif.
Pour moi, c'est plus facile d'avoir accès à la voix qu'à l'écriture, car je suis dysorthographique. Je sais que je vais avoir moins de jugement sur ma voix que sur mon écriture. La radio permet de mettre des mots sur le silence. C'est ce qui m'a d'abord séduite. La radio, c'est d'abord des voix dans mes oreilles qui m'incitent à gueuler plus fort. De nouveaux mots, de nouvelles idées pour dire ce qui est tabou. Elle permet de faire entendre sa voix face à l'injustice, au coup, à la misogynie. Ne plus faire silence face à ce qui détruit des vies. Ne pas écouter la peur et nourrir ma culture de la lutte, ne pas avoir peur de prendre de la place. Pouvoir être cette voix qui participe à rompre l'isolement, qui dit « t'es pas toute seule et ce n'est pas ta faute ». J'ai ouvert la porte du studio et tout un univers m'est apparu. La radio est un média plus vivant que la presse écrite. Elle permet une conversation. Et je suis convaincue que c'est par les conversations que l'on avance. Mon émission apporte de l'information, c'est un espace d'ouverture, pour que l'on entende les personnes qui ne sont pas normalement amenées à s'exprimer. Écouter des mots, des personnes déployer leurs pensées, nous procure de la chaleur. Un peu comme un cadeau contre l'isolement.
Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles. Tu comprends, ça veut dire isole. Isola, Lille, quoi.
Radiotopia, c'est aussi un beau témoignage de la diversité des acteurs des radios associatives et de leur première rencontre avec la radio. Ce qui ressort, c'est aussi la passion qui rassemble ces personnes autour de leur pratique.
En fait, c'est ça qui est, je pense, particulier, c'est que souvent les gens qui rentrent à l'intérieur d'un processus de fabrication radio, que ce soit une émission ou là, en l'occurrence, un documentaire, évidemment, ils rentrent avec une envie et ils en ressortent avec une expérience. Effectivement, la passion vient, et peut-être évidemment un élément qui génère l'envie de le faire. Et parfois, pour certaines personnes, une fois l'expérimentation faite, ça génère encore plus d'envie et de passion de réaliser, de continuer à travailler dans la radio. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que dans la notion de passion, il y a aussi l'idée d'avoir à se confronter aussi à la réalité de la production radio, à la réalité d'un média ou à la pratique documentaire, qui est parfois aussi un travail assez fastidieux, qui demande beaucoup de patience et de la formation. Donc le projet sur lequel on a travaillé avec Radiotopia, c'était un projet évidemment de pratique documentaire, celles et ceux qui souhaitent, quelle que soit leur expérience, peuvent venir dans Radiotopia, faire partie intégrante de cette équipe et produire des contenus et en sortir avec une expérience qui est forte. Mais c'est pas toujours évident et parfois aussi on vient, confronter sa passion au principe de réalité.
Et alors, ça s'entend particulièrement dans le deuxième numéro qui est consacré à la voix, qui s'appelle « Trouver sa voix ». C'est aussi le moyen pour les producteurs de se questionner ensemble sur le média radio et sur ce qu'il est aujourd'hui. Alors, dans l'épisode « Comment trouver sa voix », on interroge particulièrement les personnes au sujet de la formation à la voix, à la radio. Et puis, on se pose des questions sur l'uniformisation de la voix à la radio, par exemple.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est vrai, quand on apprend le médium radio, souvent au travers des écoles de journalisme qui font un travail très approfondi, justement, sur la question des formats. Et c'est une opinion c'est mon opinion, mais effectivement, les jeunes qui ressortent des écoles de journalisme ressortent souvent compétents, mais souvent un peu formatés et ils apprennent à répondre à des formats. Donc c'est vrai que dans l'épisode Trouver sa voix, on avait aussi envie d'aller un petit peu à contre-pied justement de la question du format, des formats et des voix en fait qu'on doit, ou des types de tonalités qu'on doit adopter à l'intérieur d'une émission de radio, raboter les accents, avoir un phrasé particulier, etc. Enfin, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Arte Radio aussi avait fait une super fiction documentaire assez très drôle à ce sujet-là. Mais nous, on vient un peu plus sur la question, je dirais, dans cet épisode, un peu plus sur la question politique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un accent un peu de quartier, je dirais. Est-ce que on doit le gommer ou au contraire, est-ce qu'on doit essayer de le conserver, ou est-ce que c'est un travail que l'auditeur aussi doit, enfin un effort que doit faire l'auditeur justement pour arriver à, je dirais, tolérer accepter ces différences de phrasé. En tout cas, ce que moi j'ai l'habitude de dire lorsque des jeunes gens pratiquent la radio en milieu associatif et non pas dans les radios pré-commerciales, etc., c'est de travailler leur voix plutôt au travers de disciplines comme le théâtre et moins d'essayer de coller avec les formats habituels qu'on peut entendre, je ne sais pas, aux 20h, au JT de la télévision ou sur les grandes matinales, enfin sur les matinales des grandes radios, qu'elles soient privées.
Là, écoute, petit micro, tu vas être bien gentil avec les auditeurs, hein. Tu leur donneras toujours des bonnes nouvelles. Et puis alors, pas de parasites, enfin, le moins possible, quoi. Et puis, écoute, alors, rends tous les auditeurs heureux, si tu peux, hein.
Maintenant, t'es calé en technique.
Oui, maintenant, ça va.
Ok, donc si je te demande de me faire un petit tour technique du studio, ce serait possible?
Oui, c'est possible. Alors, ici, le studio à Radio Campus... Et il est composé d'une table qui est située au centre du studio où il y a plusieurs micros.
Il y a des sources sonores. Il y a des gens qui parlent, dont le son, dont la voix est captée par des micros. Les micros, ils transforment le son qu'on entend en signal électrique. Et donc ce signal électrique, il va être transmis par des câbles jusqu'à une table de mixage.
Et c'est cette console de mixage qui est en fait le centre, le cœur de la technique.
C'est un appareil qui mixe, qui mélange les différentes sources sonores. Donc en source sonore, il y a les voix, mais il y a aussi la musique qui vient d'un ordinateur, par exemple, ou d'un lecteur CD ou n'importe quoi. Il peut y avoir un téléphone pour une intervenante extérieure. Donc la table de mixage, elle mélange tous ces sons-là.
Et le tout est relié à une console de modulation qui est située à l'extérieur du studio.
Et puis elle redirige toujours sous forme de signal électrique dans des câbles le son vers sa sortie et jusqu'à l'émetteur.
Grâce à un faisceau numérique par IP.
Et donc l'émetteur radio, son rôle, ça va être de créer des ondes radio dans lesquelles seront transmises le son. Donc le son qui est de la sortie de la table de mixage.
Et l'épisode 3, lui, questionne davantage les aspects techniques, les enjeux de la diffusion FM, web, DAB+, pour les radios et l'autonomie qui en découle pour les radios aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, c'est marrant. Rétrospectivement, ça fait là déjà quelques semaines qu'on a stoppé la production. Et c'est vrai qu'en réécoutant ces problématiques-là, c'est toujours très intéressant parce qu'on est vraiment sur des enjeux et des préoccupations qui nous sont liées à nous dans les radios et surtout dans les coordinations radio. Mais ouais, la question de la technique et de la propagation, on va dire, tout simplement du média. Aujourd'hui, La plupart des radios associatives, elles sont nées avant l'arrivée, on va dire, populaire du web. Et donc, le mode de propagation privilégié, c'est évidemment les ondes hertziennes. Aujourd'hui, on continue à utiliser les ondes hertziennes. On est même dans des processus de modernisation, hein, de diffusion des ondes hertziennes, ce que propose notamment le DAB, avec des nouveaux modes d'organisation. Enfin, je ne peux pas détailler tout ici, mais ce qui est certain, c'est que la question de la technique, elle a aussi des répercussions très, très fortes sur les modèles qu'on représente. Et c'est vrai que, pour citer ne serait-ce que l'exemple du podcast, où aujourd'hui, lorsque vous écoutez un podcast, souvent vous avez une amorce publicitaire, des partenariats avec, etc. Donc, on sent en fait que pour que dans le monde du podcast, on puisse trouver les moyens de faire fonctionner son média, il faut aller chercher aussi des annonceurs et des partenaires. Alors que nous, dans la radio associative, on travaille plutôt avec des partenaires publics, avec des collectivités territoriales, avec parfois aussi avec l'université. Et voilà, on travaille sur d'autres enjeux et d'autres modes de propagation font véritablement le modèle organisationnel.
Alors, Radiotopias, pour l'instant, ce sont 3 épisodes. C'est en cours de production, hein. La série n'est pas finie. La première diffusion aura lieu, normalement, si tout se passe bien, lors du festival
Longueur d'onde
à Brest. Je l'avais oublié, pardon.
En 2022, en janvier 2022 ou début février, je ne sais plus les dates en tête.
D'ici là, le projet collaboratif continue. On peut rejoindre l'équipe pour la production du 4e épisode. À partir de quand, Émile ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Bah, il est effectivement tout à fait recommandé de pouvoir rejoindre l'équipe de production de Radiotopia, parce qu'effectivement, on a encore quelques épisodes à terminer, à la seule condition que vous soyez membre bénévole, hein, d'une Radio Campus, mais adhérent d'une Radio Campus. On espère effectivement redémarrer la production là à l'automne, en vue d'un 4e, peut-être 5e épisode qui seront effectivement révélés ou diffusés au moment du festival Longueur d'onde où nous sommes chaque année invités.
Et après sur les Radio Campus.
Évidemment.
Voilà, je te remercie Émile de nous avoir parlé de cette expérience assez unique où on apprend en faisant. J'en suis le témoin. Eh bien, on te remercie. On peut rappeler peut-être le site web de Radio Campus France pour les plus curieux, ceux qui aimeraient en effet peut-être avoir davantage d'infos sur toutes les actions qui sont menées par le réseau des Radio Campus.
Ouais, c'est une bonne idée. Merci d'ailleurs, Viviane, aussi pour ta participation à Radiotopia. Tu as rejoint l'équipe un peu plus tard et voilà, c'est important aussi de mentionner ça. Et effectivement, pour le site de Radio Campus, c'est le www.radiocampus.fr. Merci effectivement de mentionner le site parce que on va avoir un nouveau site qui va ouvrir, je pense, dans les prochains jours, sinon les prochaines semaines, qui sera rempli de super podcasts et d'informations sur le réseau et d'informations sur les radios qu'on représente. Donc voilà, allez sur ce site www.radiocampus.fr.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci à toi.
On a appris tant de choses en faisant cet objet et ça va continuer.
Radiotopia.
La radio du poste en micro.
Engine 10%.